Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce samedi 8 janvier, le cap du million d'Australiens atteints du Covid-19 en passe d'être atteint dès lundi. À mesure que les cas augmentent, les restrictions se durcissent à travers les États et les tests rapides antigéniques ont désormais la même valeur que les tests PCR. Emmanuel Macron persiste et signe, le président français d'y assumer totalement ses propos sur les personnes non vaccinées, sans pour autant les réitérer. C'était il y a 7 ans et un jour les attentats sanglants dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. 12 personnes assassinées, un hommage intime et privé leur a été rendu à Paris. Et plusieurs jours de violence et des dizaines de morts au Kazakhstan, la discussion entre le pouvoir et les manifestants semble impossible, surtout que le président autorise la police à tirer à vue. Et enfin en sport, Novak Djokovic toujours à l'isolement dans un hôtel de détention pour demandeurs d'asile à Melbourne. On fera le point sur la situation dans le journal des sports. On commence ce journal par l'épidémie de coronavirus. Alors que la Nouvelle-Galles du Sud enregistre un nouveau record quotidien avec plus de 45 000 infections en 24 heures et 9 décès, l'État a décidé de réintroduire certaines restrictions. Parmi celles à retenir, il est interdit de chanter et danser dans les bars et restaurants jusqu'à la fin du mois. Les chirurgies considérées comme non urgentes sont suspendues jusqu'à minimum mi-février. Le booster, c'est-à-dire la troisième dose de vaccin, est obligatoire pour les travailleurs de première ligne, notamment les enseignants et les infirmiers. Et enfin, les résultats des tests rapides antigéniques sont désormais comptabilisés dans les chiffres quotidiens et ont même valeur que les tests PCR. On écoute à ce propos le premier de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet.
What we would say to people today as we move through this period, that if you do receive a positive rapid antigen test, that you register that through Service New South Wales and New South Wales Health. New South Wales Health and Service New South Wales have been working on and will be available next week, by mid next week, a system that if you do have a positive rapid antigen test, that you treat that as if it was a positive PCR test and that you isolate in accordance with the rules that are in place.
Toujours à propos des tests rapides antigéniques, désormais au même rang que les tests PCR, les généralistes tirent la sonnette d'alarme. Alors que Scott Morrison demande aux Australiens de téléphoner à leur médecin si leur résultat de test antigénique est positif, les docteurs, eux, appellent le gouvernement fédéral à très rapidement mettre en place un système automatisé pour enregistrer ces données. Ils craignent de ne pas pouvoir gérer l'afflux d'appels et demandent des moyens supplémentaires. On écoute Charlotte Espy, directrice du Collège de la Nouvelle-Galles du Sud et de Canberra.
I think there's both a sense of, okay, I've got a positive test, so you can now link me into the system, which of course at this point in time there is no system to be linked into. We know what happened when there was just the sort of the vaccination debacle in terms of go ring your GP and nobody was ready and the phone lines all collapsed. And pretty much from what I can gather, hearing around the traps, that's pretty much what's happening.
De son côté, le Victoria a mis en place son propre système, une ligne téléphonique étatique pouvant recevoir jusqu'à 50 000 déclarations de tests positifs par jour. Pour Jérôme Weimar, le monsieur Covid-19 du Victoria, le but est de guider au mieux les patients positifs.
What it will mean is that we'll be able to give you ongoing updates and check in with you on your condition and to make sure you get access to the COVID care through our primary and hospital healthcare systems. We're also, of course, in conversations with the Commonwealth to ensure that anybody who returns a positive rapid antigen test result and logs that result for the system can also access the pandemic leave payments, and we'll continue those conversations over the coming days.
Le Victoria, qui enregistre plus de 51 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, résultat basé sur les résultats des tests PCR et également pour la première fois des tests rapides antigéniques. Et ces fameux tests rapides, justement, qui font l'objet d'une polémique croissante depuis plusieurs jours, déjà parce qu'il est très difficile d'en trouver, mais aussi parce qu'ils sont chers et que leur prix varie d'un magasin à un autre, eh bien sachez que le tarif est désormais encadré. Les revendeurs qui tenteraient de majorer les kits de plus de 20% du prix encadré encourent depuis ce matin 66 000 $ d'amende et jusqu'à 5 ans de prison. Alors voilà pour ce qui est des tests rapides antigéniques. Si l'on revient à la situation épidémique en Australie par État, sachez qu'à Canberra également, il est désormais désormais interdit de danser ou de manger debout dans les restaurants, bars et cafés. Les boîtes de nuit restent ouvertes, mais seulement pour servir des boissons, comme un bar donc, et les chirurgies électives sont là aussi déprogrammées. Dans le Queensland, la rentrée scolaire pourrait être reportée de 2 semaines, le gouvernement d'État se préparant à une hausse encore exponentielle du nombre de cas. Hier, 11 000 nouvelles infections ont été enregistrées, 313 personnes hospitalisées, dont 14 en soins intensifs. La première, Anastasia Palaché, encourage les habitants à travailler depuis chez eux, à éviter les interactions sociales pour les 6 prochaines semaines et s'adresse directement aux parents concernant leurs enfants. Écoutez.
We are looking at a 1 to 2 week delay in relation to the return to school. We will give you more concrete decisions on this over the coming days. But I just want to assure parents that that is definitely not on the agenda to send primary school children unvaccinated to school if we are in the peak of this wave. This is a common sense measure.
La Tasmanie a elle aussi publié ses données quotidiennes, 2223 nouvelles infections en 24 heures. Ce chiffre correspond à 50% de tests PCR et 50% de tests rapides antigéniques. Et les territoires du Nord enregistrent, eux, 594 nouveaux cas. Politique française à présent, et Emmanuel Macron dit assumer totalement ses déclarations sur les personnes non vaccinées. On le rappelle, le président avait dit vouloir les emmerder jusqu'au bout, je cite bien sûr. Eh bien, le chef de l'État persiste et signe. Il a donné hier une conférence de presse à Bruxelles avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Valérie Gasse.
Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes, même s'il s'explique sur un ton très calme. Sur le fond, le président affiche une grande fermeté.
On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres.
Sans employer le même vocabulaire que dans son entretien avec les lecteurs du Parisien, Emmanuel Macron confirme sa stratégie vis-à-vis des non-vaccinés et la justifie en expliquant que les partenaires européens font la même chose.
C'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi ? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées.
Emmanuel Macron revendique donc d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Une explication de texte dans laquelle le chef de l'État a reçu le soutien de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
La liberté est toujours combinée avec la responsabilité. Et un gouvernement doit protéger également. C'est-à-dire le passe vaccinal est une forme de protection, un instrument que bien sûr le gouvernement peut utiliser.
À défaut de partager les mots, les deux responsables partagent les objectifs et les moyens.
Alors qu'elle effectuait son premier déplacement de l'année à Béziers, dans la ville de Robert Ménard, qui lui offre son parrainage pour la présidentielle, Marine Le Pen s'en est directement pris à Emmanuel Macron et son entrée en campagne déguisée.
Est-ce qu'Emmanuel Macron se sert de la crise sanitaire pour entrer en campagne ? La réponse est oui. Incontestablement oui, et je pense que l'article du Parisien le démontre, car le ton qu'il prend, n'étant pas du tout un ton de président, on ne peut qu'en conclure que c'est un ton de candidat. Donc faire campagne sur la crise sanitaire, est-ce que c'est utile ? Réponse non. Est-ce que c'est efficace ? Je crois réponse non, parce que il y a derrière des problèmes auxquels il faut apporter des réponses, et ces problèmes n'ont pas disparu. Et si on ne pousse pas par notre capacité à mettre ces sujets sur la table, les Français à s'en saisir, eh bien, ils auront des lendemains qui déchantent. Parce que quand la crise sanitaire sera passée, et elle passera bien sûr, quand elle sera passée, eh bien, il restera le problème du chômage, il restera le problème de l'aménagement du territoire, il restera le problème de l'insécurité, il restera le problème de l'anarchie migratoire, le problème du pouvoir d'achat. Et ça, ce sont des sujets dont nous nous devons de parler comme candidat à la présidentielle.
Plusieurs manifestations nationales sont organisées ce samedi en France contre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Les autorités anticipent un rebond du nombre de participants. Il pourrait y avoir 40 000 personnes dans les rues contre 25 000 comptabilisées par la police en moyenne avant Noël. Marie Casadebé.
Il y a d'abord le projet de loi examiné cette semaine par l'Assemblée nationale et à partir de lundi par le Sénat qui pourrait imposer aux Français un pass vaccinal dès la mi-janvier. Il ne suffira plus de présenter un test négatif pour aller au restaurant, au cinéma ou encore à la piscine, mais bien un schéma vaccinal complet avec son lot d'exceptions évidemment. Le projet a ses opposants, ceux qui refusent d'être vaccinés, mais aussi ceux qui refusent le principe d'une obligation de fait de la vaccination pour poursuivre une vie normale. Et puis en plein examen l'examen de ce projet de loi, il y a les propos polémiques d'Emmanuel Macron dans la presse mercredi. Le président de la République disait avoir envie d'emmerder les non-vaccinés, les qualifiant d'irresponsables. Près de 5,5 millions de personnes ont pu se sentir visées, tous les Français qui n'ont pas reçu leurs deux doses. Cela pourrait faire du monde ce samedi dans la rue.
C'était il y a 7 ans, le 7 janvier 2015 à Paris, 12 personnes étaient abattues dans les locaux de Charlie Hebdo. Un hommage a été rendu devant les anciens locaux du journal satirique, hommage fermé au public. Seuls étaient conviés les familles des victimes, les anciens collègues et des personnalités politiques. On écoute le témoignage de ce journaliste qui a préféré rester anonyme.
C'est l'écho que ça a au-delà d'ici qui est important. C'est qu'on en parle encore ailleurs, qu'on en parle aux plus jeunes, dans les écoles, etc., etc. C'est ça qui est important. Et du coup, c'est important pour la liberté d'expression et la liberté de la presse d'être là aujourd'hui. Voilà, parce que c'est important, c'est un de nos droits élémentaires et c'est important que ça continue à vivre. C'est un écho particulier avec le combat pour la laïcité aussi. C'est essentiel, voilà, comme c'est toujours clivant aujourd'hui ces questions-là, c'est important de rappeler qu'on est là aussi dans un état de droit qui défend ces valeurs-là.
L'actualité au Kazakhstan, où les émeutes se sont calmées, mais où le calme est encore très précaire. Le président Kassym-Jomart Tokayev refuse toute négociation avec les manifestants, malgré les appels de la communauté internationale, et autorise les forces de l'ordre à tirer à vue. Une situation chaotique que raconte le journaliste Raoul Ouparov, que RFI a réussi à joindre à Oural, dans le nord du pays.
Les gens essaient d'avoir de l'argent liquide. Tous les transferts bancaires sont stoppés, les distributeurs sont vides. C'est la même situation presque partout au Kazakhstan. Hier, j'ai parlé avec un ami de la capitale, Astana. Et là aussi, il n'y a plus d'argent. Il fait ses courses en promettant de payer plus tard. Il achète beaucoup de pain. J'ai appelé mes amis à Almaty. Certains habitent en banlieue, d'autres dans différents quartiers de la ville. De chez eux, ils entendaient cette nuit et ce matin encore des rafales de tir. Ce n'est plus juste des grenades assourdissantes utilisées au début, mais de vraies rafales. Cette situation est un vrai chaos. Il y a des voitures brûlées, des magasins, des vitrines cassées. Qui tire? Est-ce que ce sont les militaires, les bandits? On ne peut pas le dire, on ne comprend rien. C'est un pur chaos.
Et dans une allocution télévisée, Kassym-Jomart Tokayev a remercié tout spécialement son ami et allié Vladimir Poutine pour son aide après l'arrivée sur place d'un contingent de troupes russes et d'autres pays alliés de Moscou venus pour soutenir le pouvoir. La Russie, justement au cœur des discussions à Bruxelles entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, à 2 jours des pourparlers entre Russes et Américains sur la situation à la frontière ukrainienne, les membres de l'Alliance Atlantique tentent de s'entendre sur une position commune. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken accuse la Russie d'amasser des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine en vue d'une invasion. On l'écoute.
No one should be surprised if Russia instigates a provocation or incident. Then tries to use it to justify military intervention, hoping that by the time the world realizes the ruse, it'll be too late. The idea that Ukraine is the aggressor in this situation is absurd.
Aux États-Unis, la prison à vie pour les 3 Américains blancs poursuivis pour avoir abattu un jogger noir en février 2020 en Géorgie. Greg et Travis McMichael, père et fils, avaient attrapé leurs armes et poursuivi en pick-up Armaud Arbery, 25 ans, qui était en train de faire son jogging. Ils affirmaient avoir soupçonné le jeune homme d'être un cambrioleur. Leur voisin William Roddy Bryan les avait rejoints pour filmer la scène. Seul ce dernier pourra demander une liberté conditionnelle au bout de 30 ans d'emprisonnement. Jasmine Arbery est la sœur d'Armaud. Juste avant le verdict, elle s'était exprimée devant la cour et avait appelé les juges à ne faire preuve d'aucune clémence. On l'écoute.
He was robbed of his life pleasures, big and small. He would never be able to fulfill his professional dreams. Nor he'd be able to start a family or even be a part of my daughter's life. The loss of Ahmaud has devastated me and my family. So I'm asking that the man that killed him be given the maximum sentence available to the court.
Le procès de 14 étudiants s'est ouvert devant un tribunal d'Istanbul en Turquie. Il y a un an, les accusés avaient participé à des manifestations contre la nomination d'un recteur à la tête de l'université du Bosphore, un établissement public de renom, un recteur proche du président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État turc avait qualifié ces protestataires de terroristes, mais ils ont finalement tous été libérés à l'issue du premier jour d'audience. À Istanbul, la correspondance de Anne Andlauer.
Quand ce n'est pas sur le campus, c'est ici, devant le palais de justice, que des étudiants de l'université du Bosphore, Boazici, dénoncent la prise de contrôle de leur établissement par le pouvoir politique. Depuis un an, ils réclament le départ du recteur nommé par le président Erdogan et l'élection d'un remplaçant par le personnel enseignant, Melike, étudiante en deuxième année.
Il n'y a pas que Boazici, toutes les universités sont sous tutelle. Nous lutterons pour des universités libres et autonomes.
Depuis le début de la protestation, des centaines d'étudiants ont été placés en garde à vue et une douzaine d'enseignants qui les soutiennent ont été licenciés. Parmi eux, Feyzi Erçin, qui enseignait le cinéma.
Dans les établissements, la liberté n'est plus qu'un souvenir. L'autocensure s'est généralisée. Nous sommes face à un système qui tente de criminaliser toute forme de manifestation pacifique.
Même si la manifestation rassemble tout au plus une centaine de personnes, Mert, étudiant en psychologie, se dit de plus en plus optimiste.
Je sens monter une résistance à travers le pays. Cela ne se manifeste pas forcément sous la forme d'un grand mouvement de protestation ou de manifestation dans la rue, mais les voix d'opposition sont de plus en plus nombreuses. Le pouvoir est affaibli et je pense qu'une alternance est possible aux prochaines élections.
Recep Tayyip Erdogan et son parti affronteront de nouveau les urnes en juin 2023 au plus tard.
Un regard sur votre météo du jour. Perth, il fera soleil et 34 degrés. Adélaïde, nuageux, 25 degrés. Melbourne, averse avec 21 degrés. Hobart, en Tasmanie, averse et 17 degrés. Canberra, Sydney, Brisbane, pluvieux, comptez 28-29 degrés. Cairns, de la pluie aussi, mais 34 degrés. Même température à Darwin, mais du soleil. Le rappel des principaux titres de l'actualité. Le cap du million d'Australiens atteints du Covid-19 en passe d'être atteint dès lundi et les tests rapides antigéniques ont désormais la même valeur que les tests PCR. Emmanuel Macron persiste et signe. Le président français dit assumer totalement ses propos sur les personnes non vaccinées sans pour autant les réitérer. Et plusieurs jours de violence et des dizaines de morts au Kazakhstan. La discussion entre pouvoir et manifestants semble impossible. Le président autorise la police à tirer à vue.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.